Bonjour à chacun. Comme Marcos l'a déjà dit en introduction, on quitte en fait notre série dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse. On a étudié les lettres aux églises qui se trouvent au début du livre de l'Apocalypse et on a terminé la semaine dernière avec l'église de Laodicée, la lettre que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ adresse à l'église de Laodicée. Et aujourd'hui, on entre dans une toute petite série, dans deux semaines, vous le savez, hein, ce sera le dimanche de Pâques, et on aimerait bien se préparer à cet événement de Pâques. Bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, je trouve, la fête de Noël prend un petit peu le pas sur la fête de Pâques. Ça se voit nettement dans les magasins où on fait tout un foin pour Noël et pour Pâques, vous avez peut-être juste un tout petit truc. Mais ça se voit aussi, je pense, dans la société, où beaucoup de gens, peut-être, ont une idée de ce que c'est Noël. Mais si vous demandez aux gens dans la rue qu'est-ce que c'est Pâques, vous allez sûrement avoir tout un tas de réponses bizarres et peu de gens qui savent, en fait, qu'est-ce que ça signifie Pâques. Et en fait, je pense que même parfois, dans nos églises, c'est quelque chose qui vient où la fête de Noël prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'ampleur, on se réjouit, on se prépare, on décore, on fait toutes ces choses-là, et finalement, la fête de Pâques, elle passe un peu à la trappe. Et c'est juste qu'on fête Noël. C'est un événement majeur de l'histoire du salut, le moment où Dieu lui-même est venu dans l'humanité. Mais en même temps, c'est pas juste que la fête de Pâques, qui est le cœur de notre foi, le moment où Jésus est mort et ressuscité, que cette fête de Pâques soit un petit peu dans l'ombre, que cette fête de Pâques soit un petit peu passe un petit peu à la trappe. Du coup, on s'est dit que pour marquer le coup, on allait faire cette petite série de Pâques, trois prédications, et je vous annonce tout de suite. Hein, donc aujourd'hui, on va un petit peu entrer dans cette perspective de la mort et de la résurrection. On va parler de l'humiliation de Jésus-Christ. La semaine prochaine, ce sera André, qui n'est pas là ce matin, mais qui nous parlera des souffrances de Jésus-Christ. Et puis, dans deux semaines, on verra ensemble cet événement qui constitue vraiment la Pâque de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé d'en apprendre un petit peu plus sur la vie de Jésus, à la suite de Pâques, au courant du mois d'avril, on va démarrer une petite série de groupes découvertes. Donc si vous avez envie de découvrir la vie de Jésus, si vous avez envie de découvrir un petit peu les fondements de la foi chrétienne, venez me voir et puis je vous donnerai toutes les dates, toutes les informations par rapport à ça. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc l'humiliation de Jésus et on va lire un petit texte que l'apôtre Paul a adressé à l'église de Philippe, aux chrétiens de la ville de Philippe. Paul, dans ce texte, vous pouvez déjà chercher, hein, c'est dans Philippiens au chapitre 2. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez simplement lever votre main et Marcos va venir vous apporter une Bible. Soyez pas timide parce que vous avez le droit de venir sans Bible. Simplement, ce sera utile d'avoir une Bible devant vous parce que ça vous aidera à suivre le texte quand je lirai le texte. Donc, comme j'ai dit, pendant que vous cherchez quelques mots d'introduction, Paul il est en train d'encourager les chrétiens de Philippe à vivre d'une manière digne de l'Évangile. C'est ce qu'il nous dit au chapitre 1. Et comment vivre d'une manière digne de l'Évangile? Au début du chapitre 2, Paul dit, c'est en vivant l'unité entre les chrétiens. Et comment vivre l'unité entre les chrétiens? Paul nous donne une clé énorme. C'est en vivant l'humilité. Et comment vivre l'humilité? Il nous donne encore une clé énorme, et c'est le texte qu'on va lire ce matin. C'est en suivant l'exemple parfait de Jésus-Christ, qui est vraiment l'humilité absolue, qui a vécu l'humilité absolue. Donc je vais lire tout de suite dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11. Donc si vous avez trouvé l'épître de Paul aux Philippiens, c'est un peu dur à trouver parce que c'est que 4 chapitres, c'est juste peut-être 2 ou 3 pages dans votre Bible. Donc ça peut vous demander un peu de temps pour la trouver. Mais une fois que vous l'avez trouvé, vous cherchez le chapitre 2 et on commencera la lecture à partir du verset 5 et jusqu'au verset 11. Je le lis. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir quatre points dans ce texte, et puis le titre, la pensée principale de ce passage, c'est « Humilions-nous comme Jésus ». Et on va voir quatre points. On va voir premièrement que Jésus est Dieu. Deuxièmement, que Jésus s'est humilié en devenant homme. Troisièmement, on verra que Jésus s'est humilié par sa mort. Et quatrièmement, on va voir que Jésus a été glorifié par Dieu. Premièrement, verset 6, Jésus est Dieu. Et c'est important de commencer par là, déjà parce que Paul le fait, hein, donc on suit ce que Paul écrit, mais aussi parce que c'est, si on veut bien comprendre la profondeur de l'humiliation de Jésus, il faut bien comprendre qui il est au départ. Et Paul utilise deux expressions pour décrire qui est Jésus. Premièrement, il nous dit qu'il est de condition divine. Et deuxièmement, il nous dit qu'il est égal à Dieu. Deux expressions fortes, et il n'y a pas de doute possible. Jésus est Dieu. Il est de toute éternité passée. Et c'est énorme de réaliser ça. Ça vaut le coup de s'arrêter une minute pour bien comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jésus partage, et il y aura d'autres passages qu'on pourrait citer pour étayer ça, mais il partage les attributs de Dieu. Sainteté, justice, connaissance, puissance, immortalité, amour. Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, ça veut dire qu'il est aussi, de par sa nature même, revêtu d'une gloire qu'on ne peut même pas imaginer. Ça signifie que la seule attitude convenable face à Jésus, c'est l'adoration. Non pas une adoration de façade, mais une adoration profonde, sincère, spontanée, parce qu'il est Dieu. Si Jésus est Dieu, ça signifie aussi qu'il règne en tant que créateur et en tant que roi des rois. Il règne sur l'univers entier. Il est le seul dont le règne est légitime. Et ça, son règne n'a rien à voir avec tous les règnes humains. C'est beaucoup plus fort. Jésus-Christ, par une simple parole, peut créer ce qu'il veut. Par une simple parole, il peut faire cesser l'existence aussi de ce qu'il veut. Il a l'autorité la plus absolue sur l'univers. Bien, une autorité bien plus grande que n'importe quel être humain. Bref, Jésus est Dieu. Si vous voulez en être convaincu, vous pouvez relire ce texte qu'on a étudié il y a 2 mois, hein, de Apocalypse chapitre 1, où on voit Jésus-Christ revêtu de toute son autorité. Je prends un peu de temps pour vous expliquer ça, parce que c'est important de réaliser que Jésus est Dieu. C'est quelque chose qu'on le dit souvent en tant que chrétien. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Mais si je vous dis tout ça, ce n'est pas juste pour faire du blabla. C'est parce qu'il faut qu'on réalise, encore une fois, à quel point Jésus est Dieu, pour bien comprendre la profondeur de son humiliation. Si on veut comprendre à quel point Jésus a été humilié, il faut comprendre d'où il est parti. Il faut comprendre qui il est, Jésus est Dieu. Passe au deuxième point. Jésus s'est humilié devant les hommes. Ça, c'est le verset 7. C'est la première étape. Après, il y a une deuxième étape. Hein, mais première étape de l'humiliation de Jésus, il s'est fait homme. Il nous a rejoints. Au lieu de s'accrocher à la divinité, au lieu de la voir comme un butin à préserver, il s'est dépouillé. On pourrait dire en quelque sorte, mais je vais expliquer après, c'est comme s'il avait troqué sa condition divine du verset 6 contre une condition de serviteur au verset 7. Il a troqué son égalité avec Dieu du verset 6 et il est devenu semblable aux êtres humains, considéré comme un simple homme au verset 7. En fait, c'est un petit peu trop fort de dire qu'il a troqué ça, parce que ce n'est pas un échange. Jésus est resté pleinement Dieu quand il était sur terre. Il l'a prouvé, hein, avec tous les miracles qu'il a fait, par son enseignement. Il a convaincu les gens qu'il était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était vraiment Dieu. Mais il a aussi pleinement endossé la nature humaine. Il est devenu un homme, totalement. Il a vécu toutes les grandes composantes de la vie humaine, de la nature humaine. Il a vécu les difficultés, il a vécu les émotions, toute la gamme des émotions de la vie humaine. Il a vécu aussi toutes les grandes étapes de la vie humaine. Il y aurait tellement de choses à dire sur l'humiliation de Jésus qui est devenu homme. Mais je veux juste faire une remarque par rapport à sa naissance. Assurément, Jésus qui est Dieu, qui règne sur l'univers entier, qui peut dire et la chose arrive, Jésus aurait pu s'incarner dans un être humain adulte. Mais il a choisi de vivre une vie humaine normale et il a choisi donc de débuter avec la naissance. Il a choisi de dépendre de parents humains, réalisez ça. Lui qui a créé chaque molécule de l'univers, il a été dépendant d'une maman pour le nourrir. Assurément, Jésus aurait pu s'incarner en tant que membre d'une famille riche et puissante. Ça lui aurait sûrement facilité la vie. Mais il a choisi un père charpentier. Il a dû suivre une formation professionnelle. Il a dû travailler de ses mains pour gagner de quoi manger. Lui qui a l'origine de toute nourriture, il a dû travailler pour se nourrir. Assurément, Jésus aurait pu s'incarner et simplement naître bien au chaud dans une maison, mais il a choisi une étable. Il a même choisi une mangeoire pour les animaux. Souvent, quand on pense à Noël, on trouve ça chou, un bébé qui naît dans une mangeoire pour les animaux. Et vous avez déjà vu dans les crèches de Noël, la paille est toujours nickel. Et il est toujours emmailloté dans un vêtement tout blanc, tout beau. Hein. Moi, j'ai un beau-frère qui a des vaches. Et essayez de vous... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vraiment vu une vache de près. Et si vous avez vraiment vu un nouveau-né de quelques minutes de près. Et si vous mettez ces deux images ensemble, ce n'est pas chou. Ça fait plutôt flipper, quoi. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, si j'avais été à la place de Joseph à ce moment-là, ça m'aurait plutôt... fait peur, hein. Mais réfléchissez à ça. Dieu est né dans une mangeoire pour les animaux. La première visite que Dieu a reçue, c'était une bande de bergers de la région de Bethléem. Lui qui venait sauver le monde, il est né dans une étable. Jésus s'est humilié d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Il s'est humilié en devenant homme. Il s'est humilié volontairement. Il s'est humilié jusqu'au bout. Le fait de devenir homme, ça c'était notre deuxième point, hein, ça constitue en soi déjà une humiliation extrême. Mais ce n'est pas tout. Et on arrive au troisième point. L'humiliation de Jésus est devenue encore plus profonde. Jésus s'est humilié par sa mort. On l'a vu, hein, Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu le Fils en fait, qui est Dieu lui-même, il a obéi à Dieu le Père, il a obéi jusqu'au bout, jusqu'au point suprême, jusqu'à la mort. Et vous avez remarqué ce que Paul dit ? Il rajoute encore, même la mort sur la croix. Comme pour un petit peu souligner ce point-là, à quel point l'horreur était extrême. Jésus, en fait, si vous réfléchissez à sa vie, il aurait pu faire beaucoup de choses pour éviter la croix. Il aurait pu simplement quitter le territoire d'Israël. On l'aurait sûrement laissé tranquille. Hein. Il aurait pu arrêter d'enseigner. On l'aurait laissé tranquille. Il aurait pu arrêter de faire des miracles. Évidemment, ça aurait diminué un peu l'attrait des foules pour son enseignement. Et probablement, on l'aurait laissé tranquille. Il aurait pu se mettre les pharisiens dans la poche. Diminuant un petit peu le fait qu'il était Dieu. Il aurait pu convaincre les autorités romaines que ce dont il était accusé par les pharisiens n'était pas du tout légitime selon la loi de l'Empire. Ou tout simplement, il aurait pu utiliser sa puissance qu'il a utilisée pour faire des miracles pendant son ministère terrestre pour se libérer de la croix. Mais Jésus n'a rien fait de tout ça. il a avancé d'un pas résolu vers la mort, vers son humiliation. Il est le Messie du peuple juif. Et pourtant, les Juifs ont crié « Crucifie-le ». Il est l'inspirateur de la Bible. Et pourtant, les spécialistes de la Bible de son époque ont vu en lui un hérétique, et même pire, un blasphémateur. Il est parfaitement saint. Et pourtant, un gouverneur romain a prononcé une condamnation à mort contre lui sans motif valable. Il est le roi des rois. Et pourtant, les soldats romains se sont moqués de lui, l'ont insulté et l'ont frappé. Il est le rabbi parfait, l'enseignant parfait. Et pourtant, Judas, un de ses plus proches disciples, l'a trahi. Il est l'ami fidèle. On a vu qu'il est fidèle ce matin. Il est l'ami fidèle. Et pourtant, un de ses plus proches amis, Pierre, l'a renié. Il est le sauveur du monde. Et pourtant, le monde l'a condamné. Et pire que tout, il est Dieu. Et pourtant, sur la croix, il a subi la colère de Dieu le Père à cause de nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'humiliation de Jésus au moment de sa mort est extrême. On ne peut pas en fait imaginer, je pense, d'humiliation plus profonde, plus importante que l'humiliation de Jésus sur la croix. On arrive au dernier point, quatrième point. Jésus a été glorifié par Dieu. Au verset 9 de notre texte, vous avez remarqué, il y a les mots « c'est pourquoi ». Des mots qui montrent qu'on a là un lien de cause à effet entre son humiliation et ensuite sa gloire. Comme si la gloire était une conséquence de l'humiliation de Jésus. Dieu le Père a élevé Jésus à la plus haute place, de telle sorte que toute la création s'humilie, plie les genoux devant lui, que tous reconnaissent la seigneurie de Jésus. Et je dois vous dire honnêtement, j'ai passé du temps à méditer cette question pendant cette semaine. Réfléchir à pourquoi l'humiliation de Jésus a engendré sa gloire. Alors c'est une question qui est toujours ouverte dans ma tête, très franchement, j'ai pas de réponse à cette question. J'ai quelques pistes que je vais vous dire, mais c'est pas forcément des réponses absolues. Si vous avez une meilleure réponse, on peut en parler après. Mais on pourrait dire par exemple que le verset 8, juste avant, nous montre que c'est parce que Jésus a obéi parfaitement à Dieu que Dieu lui donne la gloire. Le verset 11, qui est après, semble montrer que, en fait, Dieu le Père donc fait sa gloire en glorifiant Jésus, en glorifiant son Fils. On pourrait aussi penser, une autre piste, qu'il y a là une logique divine, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et comme Jésus a montré l'humilité parfaite, Dieu le glorifie pour cela. Mais en fait, je crois que tout ça, ça montre une vérité. C'est que la chose la plus honorable, la plus digne de gloire, si je peux dire, qu'on puisse faire, c'est pas d'accomplir des exploits, mais c'est d'obéir et de rendre gloire à Dieu. Ça, c'est ce que Jésus a fait parfaitement. Ce que Jésus a fait parfaitement et par conséquent, Dieu l'a glorifié parfaitement. Il y a un verset dans le texte dont je n'ai pas parlé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai commencé par le verset 6 tout de suite. Et je n'ai rien dit au sujet du verset 5. On y vient maintenant. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus s'est humilié d'une manière inimaginable. On ne peut pas comprendre la profondeur de son humiliation. Mais pourtant, Paul nous dit que votre attitude soit semblable à celle de Jésus-Christ. Paul nous dit que Jésus devrait être un modèle chaque jour de notre vie. On a vu que Jésus s'est humilié à l'extrême et Paul nous demande de l'imiter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? J'aimerais vous proposer maintenant trois étapes pour nous aider à imiter Jésus dans son humiliation. Une petite checklist par laquelle vous pouvez essayer de passer pour essayer de comprendre et de mieux vivre à la suite de Jésus-Christ. Premier point, le point A. Comprendre ce qu'est l'humiliation. Ça peut paraître bête, mais je crois quand même que c'est la première chose à faire. Hein. L'humilité, c'est vraiment une vertu qui n'est pas du tout mise en avant dans notre culture. Hein. Vous n'avez jamais vu une offre d'emploi où on demande que le futur employé soit quelqu'un d'humble. Franchement, ce n'est pas du tout courant aujourd'hui. Et du coup, je pense que on est tellement déshabitué avec cette notion d'humilité que c'est nécessaire de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et Paul, dans cette lettre aux Philippiens, il nous aide à comprendre ça, il nous aide à définir les choses. Juste deux versets avant notre texte, il écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » L'humilité, ou l'humiliation, on pourrait dire, c'est pas une faiblesse. C'est pas le fait d'être indécis. C'est non plus pas le fait d'être mou. C'est pas le fait d'attendre que les choses que les autres fassent ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on devrait faire. L'humilité, en fait, c'est le fait de faire un choix. Un choix radical. Une inversion dans l'ordre de nos priorités. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais naturellement, enfin, en tout cas pour moi, hein, c'est mon cas, naturellement, notre priorité, mes priorités en tout cas, ce sont toujours mes besoins. Ma priorité, c'est moi. Et ce que Paul nous dit ici, c'est que le choix de l'humilité, c'est d'inverser ça. Au lieu de me considérer en premier, je dois considérer les autres comme supérieurs à moi-même. Est-ce que Jésus a fait ça ? Assurément, il l'a fait. Il l'a fait jusqu'à la mort. Lui, le juste, pour nous, les injustes. Il a fait de nous sa priorité. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé pour nous. Donc, premier point, hein, comprendre ce que c'est l'humiliation. Deuxième point dans notre checklist, comprendre que je suis orgueilleux. En préparant cette prédication cette semaine, j'ai réalisé tout à nouveau à quel point je suis orgueilleux. Et j'aimerais vous citer quelques questions que je me suis posées, qui m'ont aidé à réaliser mon orgueil. Je ne les cite pas pour m'auto-flageller, mais je les cite parce qu'on est fait de la même pâte, vous et moi, hein, et vous avez sans doute aussi cette même tendance à l'orgueil. Et je me dis que peut-être ces questions, elles peuvent résonner, elles peuvent vous aider aussi à progresser sur ce chemin de l'humilité, de l'humiliation. Vous êtes prêts ? J'en ai 9. Première question. Lorsque je ne suis pas d'accord et que je ne veux pas lâcher le morceau, est-ce que je considère l'autre comme supérieur à moi ? Lorsque je vis une crise avec mon conjoint, est-ce que je la considère comme supérieure à moi ? Lorsque mes collègues m'énervent et que je commence à bouillir intérieurement, est-ce que je les considère comme supérieurs à moi ? Lorsqu'un ami m'a blessé et que je décide de couper la relation, est-ce que je le considère comme supérieur à moi ? Lorsque quelqu'un est meilleur que moi dans un domaine où j'ai l'impression d'être doué et que je commence à être jaloux, est-ce que je le considère comme supérieur à moi ? Lorsque par mon attitude ou mes paroles, je fais comprendre aux autres que j'ai toujours raison, est-ce que je les considère comme supérieurs à moi ? Lorsque je rabaisse quelqu'un, est-ce que je le considère comme supérieur à moi ? Lorsque je m'adonne à la critique de personnes absentes, est-ce que je les considère comme supérieurs à moi ? Lorsque je fais de mon confort, de mon épanouissement et de mon bien-être ma priorité, est-ce que je considère les autres comme supérieurs à moi ? Ces questions, je les pose à moi-même, hein, en premier, vous avez bien compris. Hein. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'être indécis. Il ne s'agit pas d'être mou, il ne s'agit pas de dire oui à tout. Il s'agit plutôt de faire un choix ferme, un choix fort, un choix résolu, un choix assumé, de faire des autres notre priorité. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Jésus a fait. Et c'est parce que nous sommes chrétiens et que nous devons imiter ce qu'il a fait. Toutes ces questions, je me les suis posées, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais franchement, ce n'est pas joli. Je réalise mon orgueil encore et toujours. Je réalise que le péché a tellement d'emprise sur moi. Mais on ne veut pas s'arrêter là. On a passé les deux premiers points de la checklist, on comprend un peu mieux qu'est-ce que c'est l'humiliation. On comprend peut-être un peu mieux à quel point nous sommes orgueilleux, enfin en tout cas moi, à quel point je suis orgueilleux. Il faut passer maintenant sur le troisième point de la checklist. Troisième point, tendons vers l'humiliation. Il faut qu'on continue le processus pour s'approcher toujours plus de Jésus. Comment est-ce qu'on doit faire ? Bien sûr, on doit observer Jésus et essayer de l'imiter. On doit lire son attitude dans la Bible. Comprendre comment il agit et essayer d'agir comme lui. Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Et quand on y réfléchit, il a donné sa vie pour nous sauver, nous qui ne manifestions aucun intérêt pour lui, nous qui n'étions pas aimables, nous qui étions même opposés à lui. Il a donné sa vie pour nous. Il a fait de nous sa priorité. Alors que on n'avait pas d'intérêt pour lui, on n'était pas aimable et on était même opposé à lui. Alors nous, aujourd'hui, on n'est pas appelé à mourir pour les autres. Jésus l'a fait, une fois pour toutes. Et notre mort pour les autres, à part peut-être sur un champ de bataille, mais dans la plupart du temps, notre mort pour les autres, ça ne fonctionne pas. Jésus l'a fait, il est mort d'une mort expiatoire pour qu'on reçoive le pardon des péchés. C'est fait une fois pour toutes. Mais quand même, nous sommes appelés à donner nos vies au service des autres. Même ceux qui ne montrent pas d'intérêt, même ceux qui ne sont pas aimables, même ceux qui sont opposés à nous. Comme Jésus, nous devons accueillir, aimer, servir, partager, donner, aider, soutenir, édifier, reprendre, enseigner, exhorter, encourager et pardonner les autres. Non pas parce que nous sommes de bons chrétiens et par conséquent, comme nous sommes de bons chrétiens, nous devons faire ça, mais parce que nous avons fait ce choix ferme de suivre Jésus, ce choix fort, ce choix assumé de faire des autres notre priorité, d'imiter Jésus en fait. J'aimerais vous proposer un défi pratique pour cette semaine. Parce que c'est bien joli de dire tout ça, et c'est des belles paroles, mais réfléchissons maintenant à une situation dans laquelle nous allons manifester l'humilité, l'humiliation pendant cette semaine. Et ça va nous coûter. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de facile qui ne nous coûte rien. Jésus, lui, a donné sa vie. Par conséquent, ça va nous coûter. Mais c'est ça, imiter Jésus. Croyons pas qu'il faille forcément faire quelque chose d'impressionnant. Si on croit qu'il faut faire quelque chose d'impressionnant, c'est de nouveau l'orgueil hein, qui vient taper à notre porte. Mais plutôt quelque chose d'humble, justement, pour manifester l'humiliation. Je ne sais pas, peut-être invitons un frère ou une sœur à manger après le culte, parce qu'il est notre priorité, elle est notre priorité. Offrons quelque chose qui nous appartient à quelqu'un. Acceptons peut-être de perdre la face lors d'un désaccord. Complimentons au lieu de critiquer. Demandons pardon si nous avons blessé quelqu'un. Acceptons sincèrement les excuses de ceux qui nous auraient blessés. C'est juste quelques exemples. Tout ça, ça ne nous rendra pas meilleurs. Enfin, peut-être d'une certaine façon, oui. Mais en tout cas, ça ne nous fera pas gagner des points sur la calculette de Dieu. C'est juste ce que nous voulons vivre, parce que nous voulons imiter Jésus, parce que nous voulons avoir cette attitude d'humiliation qu'il a eue, parce que nous voulons vivre à l'image du Maître. Je vais me taire maintenant pendant quelques secondes pour nous laisser tous réfléchir. Seulement, choisissez pas 15 choses que vous voulez faire cette semaine pour relever ce défi. Choisissez-en juste une. Parce que 15, on ne va pas s'en rappeler et puis ça ne servira à rien. Choisissons juste une chose. Une chose qui va peut-être nous coûter, mais une chose dans notre vie, dans notre quotidien, peut-être au travail, dans votre vie de famille, dans notre vie d'église, je ne sais pas, mais une chose dans laquelle vous décidez que cette semaine, nous voulons vivre l'humiliation comme Jésus l'a vécu. Nous voulons faire des autres notre priorité. Je vais me taire pendant quelques minutes, enfin pendant quelques secondes même, pour nous laisser le temps de réfléchir et ensuite je vais prier. Je vous relis juste le titre de ce message, c'était « Humilions-nous comme Jésus ». Seigneur, on est émerveillé ce matin, enfin horrifié dans un sens, mais émerveillé de voir la profondeur de l'humiliation que Jésus-Christ a manifestée sur la croix. On est émerveillé parce qu'il l'a fait pour nous, il l'a fait pour nous sauver, nous qui étions indignes, nous qui étions pas aimables, nous qui étions opposés à lui. Il a donné sa vie pour nous. Il a manifesté l'humiliation suprême, extrême, l'humiliation la plus intense qu'on aurait pu imaginer. Et à cause de cela, tu l'as glorifié. Seigneur, aujourd'hui, nous, on s'appelle chrétien, on est des disciples de Jésus-Christ, on veut imiter notre maître, on veut suivre son enseignement et sa vie. Seigneur, aide-nous à nous humilier, à vivre cette humilité réelle, sincère, spontanée. Aide-nous de le vivre avec les autres. Aide-nous de traduire cette vérité-là en acte, pas que ça reste juste théorique dans nos esprits, mais qu'on puisse le vivre réellement. Parce que Paul nous le dit, c'est là la clé de l'unité. Et l'unité est la clé d'une vie digne de l'évangile de Christ. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ. Amen.